Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Nous voilà de retour. 9h09, c'est le week-end des experts, c'est l'automobile. Jean-Luc, vous avez l'air complètement plongé sur le tarif de Ioniti, vous savez, qui est ce service de borne de recharge électrique.
Extrêmement complexe, parce qu'en fonction, vous savez, il y a des constructeurs donc, qui participent en fait à Ioniti, et cette semaine, il y a Hyundai et Kia qui viennent d'adhérer à Ioniti, qui annonceront les tarifs début 2021 pour les possesseurs donc, de Kia e-Niro ou de Kona électrique qui pourront se recharger.
Bon, c'est bien, en tout cas, pour les possesseurs de Kona, enfin en tout cas de Hyundai et de Kia.
Oui, parce qu'on peut recharger, sur ces modèles-là, on peut recharger jusqu'à 77 kW de puissance, et Ioniti offre jusqu'à 350 kW de puissance. Il y a 45 bornes en France, ça permet sur l'autoroute de faire de la recharge très rapide. Si vous avez une Porsche électrique, par exemple, ça charge très rapidement, mais les tarifs sont dissuasifs, c'est juste hallucinant.
Après 45 bornes, c'est pas énorme, hein, sur tout le territoire français, en tout cas même s'ils sont placés endroits...
c'est pas beaucoup, mais il y en a, ça va ouvrir progressivement.
Hein. Ouais. Évidemment, on est au cœur de ce rendez-vous auto, hein, jusqu'à 10h. Jean-Luc est à mes côtés pour répondre à toutes vos questions. Dans un instant, on fera un point sur le véhicule autonome. Où en sommes-nous ? On en parlera avec Laurent Eyquet, mais dans l'immédiat, vos questions en priorité. Et c'est Jérôme qui est avec nous. Jérôme des Bouches-du-Rhône. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Bonjour Jérôme.
Je vous appelle parce que j'ai eu un souci avec une mini Countryman diesel. En fait, je suis tombé en panne sur l'autoroute. En fait, mon véhicule roulait très très bien. Et d'un coup, j'ai eu une perte de puissance. Et donc, je me suis mis sur le côté. J'ai appelé la dépanneuse. Et on m'a dit que c'était la chaîne de distribution qui était cassée. Et je voulais savoir, parce que Paramini me dit qu'ils ne sont pas responsables, mais je voulais savoir...
Quelle année, votre voiture ?
Cette voiture, elle est de 2013. Mais elle a moins de 100, elle avait 100 000 km. En fait, elle avait 100 000 km. C'est une voiture qui a toujours été très, très bien entretenue, qui marchait très, très bien. Et donc là, on ne comprend pas trop. Et apparemment, la chaîne, je suis allé voir sur des forums. Et c'est un défaut de fabrication, apparemment, sur ce modèle.
Oui. Les Countryman première génération, hein, qui ont été faites entre 2010 et 2016, ont la maladie de la chaîne de distribution, que ce soit les essences ou les diesels d'ailleurs. C'est ça qui est très étonnant, c'est que les deux, alors il faudrait se renseigner auprès de BMW pour savoir quel était le fournisseur des chaînes de distribution, mais à mon avis, ils ont fait un mauvais choix.
Ouais, ils ont dû lui souffler dans les bronches.
Et ce qui s'est passé dans votre cas, c'est qu'effectivement, la voiture a perdu de la puissance, parce que la chaîne commençait à dû se détendre. En fait, c'est souvent un problème de tendeur de chaîne de distribution, en fait, qui provoque après
alors,
la rupture
théorie,
de la chaîne.
Une chaîne
normalement,
de distribution
une chaîne
ne
de distribution,
se change pas.
Ça change pas. C'est pour toute la durée de vie du véhicule.
D'accord.
Donc là,
c'est
on
pas
peut
comme une courroie de distribution.
Non, c'est
qui,
pas comme
elle,
une courroie qui nécessite change, un remplacement régulier. Voilà. Donc dans votre cas, vous avez, j'imagine, joint Mini qui vous a dit on est désolé parce que votre voiture elle est de 2013.
Exactement. C'est exactement ça. Donc je voulais savoir si j'avais un recours.
Malheureusement, alors vous pouvez tenter le coup parce que on est dans le vice caché. Le problème, c'est que vous savez, la législation a évolué et maintenant la garantie des vices cachés au-delà de 5 ans, c'est très dur. Donc ça veut dire que là, Mini, il se retranche derrière ça. Ils disent voilà, votre véhicule est de 2013, donc il a passé les fameux 5 ans, la rupture de la chaîne de distribution. En plus, est-ce qu'il y a eu un devis de fait sur la réparation de votre voiture, parce que une chaîne qui casse, ça peut avoir des conséquences dramatiques sur le reste du moteur.
Alors voilà. Alors en fait, on l'a amené directement chez un réparateur auto, le plus proche. En fait, on nous a dit que sur le premier devis, parce qu'on nous a fait une estimation sur le premier devis sans ouvrir le moteur, on avait déjà pour 3000 euros. Et ensuite, sans savoir si le moteur était cassé, quoi.
Bah ouais, parce que s'ils ouvrent et que les soupapes sont tordues, les pistons sont morts, enfin voilà, votre moteur il part
à la
poubelle.
Ça peut être vraiment ce qui peut arriver si une chaîne de distribution casse.
Oui, si on est sur un moteur où l'emplacement. Alors il y a des moteurs sur lesquels une rupture de chaîne de distribution n'a pas d'impact parce que les pistons ne montent pas suffisamment haut pour toucher les soupapes, même lorsqu'elles sont ouvertes. Mais la majorité des moteurs c'est pas le cas. Donc si vous avez les soupapes qui sont ouvertes, la chaîne a cassé et le piston remonte, il va tordre la soupape, il va casser la soupape,
là,
il
tout,
va,
tout
la soupape va rentrer dans le piston qui va lui-même casser, qui peut casser la bielle. Enfin, voyez, ça peut avoir en fait en général.
Une réaction en chaîne, c'est le cas de dire.
À partir du moment où on a les pistons qui tapent dans les soupapes, on peut considérer que le moteur il est mort.
Hein, donc là, il y aurait la chaîne et éventuellement le moteur.
Ben, s'il y a le moteur, on est plus sur une plaisanterie à 7-8 000 euros. Hein.
Voilà, exactement. Donc, du coup, je voulais savoir, comme normalement, une chaîne, normalement, c'est garanti à vie. Quoi. Normalement,
oui, mais on est d'accord. Mais donc là, il faut de toute façon, vous allez passer par le courrier commandé à Mini en leur disant que voilà, vous avez une.
Oui, ça c'est fait déjà.
Ils vous ont répondu, c'est pas la peine, merci, votre voiture est trop ancienne, elle a dépassé les 5 ans. Il faut pas lâcher l'affaire. Je vous conseille de vous rapprocher de votre assureur, savoir si vous avez une protection juridique et avec l'aide de cette protection juridique, de remonter au créneau pour essayer de faire accepter ça. C'est pas gagné, hein. Depuis que la garantie des vices cachés est limitée à 5 ans.
En fait, aujourd'hui, ils n'ont aucune obligation légale.
Non, ils ont plus.
Là, ça serait simplement un geste commercial, en fait, pour Jérôme.
Ils le feront pas, un geste commercial à ce tarif-là, sur une voiture de cet âge. Ça m'étonnerait. C'est Jérôme, je veux pas être pessimiste, mais c'est pas gagné, votre histoire.
Hein. Ben oui, tu m'en doutes, mais on va se battre, on va voir.
Ouais. Tentez le coup avec l'aide d'un conseiller juridique. Ça aura plus de poids. Vous avez déjà fait le premier pas vous-même. Il faut obligatoirement rechercher, de toute façon, une conciliation. Donc, il faut déjà commencer par faire un courrier soi-même en demandant une participation du constructeur. Et une fois que c'est refusé, là, vous passez à l'étape d'après.
Jérôme, juste une petite question. Est-ce que vous avez fait toutes les révisions et toutes les interventions de ce véhicule dans un garage agréé?
Oui, garage agréé. C'est une voiture qui est très, très bien entretenue. En fait, c'est la voiture à ma femme. Et très maniaque, donc.
Oui, mais en plus, là, la rupture de la chaîne n'a rien à voir avec l'entretien. Mais bon.
Non, mais si vous n'aviez pas un carnet à jour. En fait, il y a un peu la responsabilité de Mini qui est engagée là-dedans, parce que la voiture a été suivie.
Ils peuvent très bien dire, voilà.
Parce que 7 ans pour une voiture, c'est pas si vieux que ça, quoi.
Non, je veux dire. Et malheureusement, comme je vous dis maintenant.
Jérôme, tenez-nous au courant.
Très bien.
À bientôt.
Bon, et puis bon courage, parce que vous allez en avoir besoin.
Merci beaucoup, bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Ouais, c'est dommage, parfois on est obligé d'annoncer des mauvaises nouvelles aux gens qui nous écoutent. On peut pas toujours. Ça va pas être facile pour Jérôme.
Ouais.
Et c'est vrai que les Mini de cette génération-là, comme je disais, aussi bien en essence qu'en diesel, c'est ça qui est incroyable. En général, ça concerne un type de moteur. On sait que les moteurs essence de cette génération-là, qui étaient faits en collaboration avec PSA, justement, sont fragiles au niveau de la chaîne de distribution, mais les diesels aussi, c'est ça qui est terrible.
Très bien, 9h17, avant de retrouver la météo, on évoque maintenant la voiture autonome. C'est un sujet, on va dire, à rebondissement. Hein. Ça fait des années qu'on en parle de ce véhicule autonome.
C'est un serpent de mer, en fait.
Exactement.
Mais vous savez quoi ? Pour moi, la voiture autonome, c'est comme la voiture à hydrogène. Moi, j'ai roulé avec ma première voiture à hydrogène en 1994.
Oula.
Où on me disait, en 2015, toutes les voitures seront à hydrogène. Et régulièrement, on nous balance un plan en nous disant, demain, tout le monde roulera à l'hydrogène.
Mais c'est un peu comme la voiture volante aussi, dans les années 50.
Ouais. Bon, ça paraît un peu plus utopique, mais quand même.
Non, mais attendez, à l'époque, on disait.
Oui, on imaginait en l'an 2000. 30, 40 ans, l'an 2000, on imaginait des voitures volantes.
Laurent Equi est avec nous, Jean-Luc.
Voilà. On n'en est pas encore aux voitures volantes. On parlait des voitures volées tout à l'heure, ça c'est du réel, mais les voitures volantes, c'est pas pour tout de suite. Et Laurent Equet, donc vous êtes DG du MAP, c'est l'Observatoire des experts de la mobilité. Vous avez fait justement un petit point cette semaine avec des experts, c'était jeudi je crois, sur le véhicule autonome. Alors on en est où du véhicule autonome ? Est-ce que ça a progressé déjà ? Parce qu'on n'en entend plus parler, on est d'accord, hein, depuis le début 2020, le véhicule autonome il a disparu.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
J'ai écouté votre introduction. Effectivement, alors c'était pas jeudi, c'était vendredi.
C'était vendredi, pardon.
Tout comme vous, on avait une grande interrogation en se disant, finalement, le véhicule autonome, on en est où? Et c'est vrai qu'on a eu une grosse médiatisation en 2016. Là, on nous prédisait que dès 2020-2021, on roulerait tous dans des véhicules autonomes. On a eu le mondial de l'auto 2018 où il y avait encore des présentations de véhicules autonomes. Et puis aujourd'hui, on en est encore très très loin de ce véhicule autonome. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. On va peut-être pas pouvoir tout dire dans votre émission, mais je pense que il faut considérer aujourd'hui qu'il y a eu des recherches et que les recherches se poursuivent. Par contre, il y a peut-être des priorités aujourd'hui au niveau des constructeurs automobiles qui font que le véhicule autonome est remis à beaucoup plus tard parce que il y a notamment un très très gros enjeu aujourd'hui qui est la transition énergétique des véhicules. Vous parliez du véhicule hydrogène, véhicule électrique. En tout cas, les constructeurs sont en train d'investir énormément d'argent, des milliards, des centaines de milliards pour cette conversion énergétique. C'est autant d'argent qu'ils ne vont pas mettre dans la recherche et développement du véhicule autonome. Et le véhicule autonome en tant que tel coûtera également plus cher, donc sera beaucoup plus compliqué à vendre. Et puis, il y a aussi des attentes sociétales qui ne sont pas forcément là, parce que finalement, on s'est aperçu dans notre échange qui était un regard croisé entre les assureurs, la filière automobile constructeur et aussi le regard plutôt sociétal, que finalement le sujet du véhicule autonome n'est pas un sujet dans la tête des citoyens aujourd'hui.
Alors on va, Laurent, on va essayer d'être très concret pour voir. Alors il y a des enquêtes qui ont été faites récemment. Le public, vous dites, c'est pas dans la tête du public, mais c'est plutôt une acceptation du public du véhicule autonome. On voit que les gens majoritairement disent oui, la voiture autonome, ça nous intéresse. On est d'accord.
Oui, alors c'est peut-être le paradoxe, c'est que les gens n'ont pas essayé de véhicule autonome, ils savent pas forcément ce que c'est, mais il y a une attente relativement positive. Mais c'est peut-être une attente de fonctionnalité, d'autonomisation de certaines fonctionnalités du véhicule qui rendent la conduite plus facile, plus sécure. Ça veut pas dire forcément un véhicule autonome 100%. Peut-être, Jean-Luc, il faut aussi rappeler, mais on le fera peut-être tout à l'heure, les cinq niveaux d'automatisation qui classent le véhicule autonome, et peut-être rappeler où on en est aujourd'hui.
Allons-y.
Et ce que c'est le véhicule autonome dans la tête des gens.
Que les gens comprennent bien. Alors, il y a une classification qui va de 1 à 5. 1 étant le niveau d'autonomie le plus faible. En fait, c'est juste une aide à la conduite, on est d'accord?
Oui, c'est l'ABS, le VSP, c'est les manœuvres d'urgence, mais voilà, c'est ce qu'on a aujourd'hui sur nos véhicules qui sont de plus en plus importants sur les routes aujourd'hui. Quoi.
Bon, 2, c'est ce qu'offrent certains véhicules haut de gamme qui permettent, tout en tenant encore le volant, de laisser la voiture plus ou moins conduire elle-même dans certaines circonstances, c'est-à-dire pas sur tous les types de routes, on est d'accord?
Voilà, on peut avoir des aides pour centrer le véhicule sur la voie, suivre des marquages au sol, même changer de fil, mais c'est le conducteur qui manœuvre le véhicule, qui assure la conduite du véhicule. Et je voudrais préciser qu'aujourd'hui, en France, on est au niveau 2 et nulle part dans le monde, on est à un niveau 3. On n'est qu'au niveau 2 partout dans le monde.
D'accord. Le niveau 3, donc, permet là une conduite, on va dire vraiment, qui commence à être autonome.
Alors, c'est la conduite qui est déléguée, mais le conducteur doit pouvoir reprendre le contrôle rapidement de son véhicule. Donc, on peut lâcher temporairement les mains du volant, on peut déléguer à la voiture la conduite dans certaines situations, des bouchons, sur voie rapide, mais il faudra être attentif et pouvoir reprendre le contrôle. Mmh. Et encore une fois, que ce soit très clair, parce qu'on a eu des personnes qui nous ont posé des questions, le niveau 3, réglementairement, n'existe pas. Il est interdit de conduire sous cette forme, sur les routes en France et dans le monde.
La Tesla n'est pas de niveau 3, là?
Non.
Non, c'est niveau 2.
C'est niveau 2.
C'est un véhicule de niveau 2.
OK. Voilà. Alors, niveau 4, on arrive vraiment à de la conduite autonome. Et niveau 5, c'est totalement autonome. Je monte dans la voiture, je lui dis, voilà, je vais à tel endroit, il n'y a même pas de volant, rien du tout. La voiture fait tout toute seule. On est d'accord.
Exactement ça. C'était un peu l'image du Mondial de l'Auto pour vos auditeurs qui se rappellent de PSA qui nous a présenté un concept car d'un véhicule qu'on pouvait rendre autonome. Ça, c'était le véhicule classique. Et puis, c'était Renault de l'autre côté qui proposait du mobilier urbain roulant. C'était de la navette autonome. Et on avait bien la deux visions du niveau 4, c'est-à-dire le véhicule que nous avons et qu'on pourrait rendre autonome. Et puis, le niveau 5, ce sont des véhicules qui n'ont plus de volant. Et je dirais qu'aujourd'hui, la recherche se tourne surtout vers le niveau 5. Et si on voit apparaître des véhicules autonomes dans le futur, ce sera principalement des niveaux 5.
Mais qui seront sur des itinéraires dédiés, ça ne sera pas une voiture qu'on pourra acheter pour circuler tous les jours.
Non, alors on est clair qu'effectivement c'est de la gestion peut-être de flotte dans certaines circonstances, de la gestion de parking, des navettes pour désenclaver des zones périurbaines, des zones de campagne. D'ailleurs, il y a un grand assureur mutualiste, si je peux me permettre de le citer, mais c'est
la Massif
qui s'est lancé dans une expérience avec une communauté d'intérêts. qui réfléchit à justement la mise en place, et ça peut paraître curieux pour un assureur, mais de véhicules autonomes sous forme de navettes pour le désenclavement des zones non desservies par les transports collectifs et par rapport à des personnes qui ont besoin de mobilité, qui n'ont pas de véhicule ou qui ne peuvent plus conduire. D'accord. Donc on voit bien que ce projet persiste et on voit bien aussi qu'au travers les constructeurs, c'est peut-être ce qui se dégagera dans le futur sur des zones dédiées, un véhicule niveau 5 à disposition d'eux. Et je dirais, pour être concret avec ce que nous vivons aujourd'hui, que le Covid a rattrapé le véhicule autonome et que sur l'étude des réseaux sociaux, on s'aperçoit que le véhicule autonome pourrait être une réponse sur des modes de livraison, sur des approches de mobilité aujourd'hui. Donc on a en fait, en 2016, le passage où on nous vendait un véhicule particulier qui devenait autonome à un véhicule autonome qui est plutôt au service du collectif, au service du désenclavement, au service peut-être des livraisons. Bref, cette recherche évolue, la réglementation aussi, mais le véhicule ne sera pas celui qu'on aurait pu imaginer au tout début, tel qu'on nous le décrivait en tout cas.
Il suffit de rajouter des rails, on a réinventé la Micheline, quoi, en gros.
C'est un peu ça. Mais ouais, il est clair, Jean-Luc, qu'un véhicule autonome, une navette dans une ville, la mettre en plein cœur d'une circulation, ça n'aurait pas de sens. Donc, on peut considérer qu'un véhicule autonome navette peut avoir du sens. Si vraiment je le prends, c'est parce que par rapport à un taxi, ça m'apporte un réel service de rapidité.
Oui, si vous êtes dans les bouchons, dans un véhicule, effectivement, comme ça, ça sert à rien. La réglementation, en revanche, elle a bougé. Ça, c'est au moins un truc qui progresse, puisque d'habitude, le réglementaire va moins vite que les ingénieurs dans les bureaux d'études. Là, ça a permis aux fonctionnaires de rattraper leur retard, on va dire, cette mise en sommeil, entre guillemets, de la voiture autonome.
Alors, la réglementation a évolué pour permettre l'expérimentation. Donc, on a des réglementations qui permettent des conduites expérimentales, mais c'est pas pour monsieur tout le monde. On a cette fameuse aussi convention de Vienne qui doit être réformée, et ça, c'est un gros sujet. Mais c'est pour ça qu'il faut bien préciser, tout à l'heure, on parlait de ce niveau 2 et de ce niveau 3. Des personnes achètent certains véhicules, bon, vous avez parlé de Tesla, mais il y a des constructeurs français qui offrent des niveaux très confortables de véhicules, pratiquement, on va dire, avec des mêmes fonctionnalités qu'une Tesla. Les gens font tellement confiance qu'ils se disent, bah moi je délègue la conduite, je mets sur le bouton et c'est bon. Mais ça, c'est interdit. C'est interdit, c'est-à-dire qu'on doit effectivement garder les mains sur le volant, être attentif et la conduite appartient au conducteur. Donc là, la réglementation aujourd'hui, elle est encore très précise là-dessus.
Et il vaut mieux rester attentif parce que je peux vous assurer que pour avoir testé plein de systèmes justement semi-autonomes, de temps en temps, on se retrouve dans des cas de figure où si on n'est pas attentif, c'est l'accident assuré. Donc,
c'est exactement ce que nous disait par exemple un institut comme Vedecom, qui est l'institut de la filière automobile et des constructeurs sur la recherche, et qu'aujourd'hui les algorithmes ne sont pas encore suffisamment précis. On n'a pas encore, par exemple, la 5G, on pourrait aller très loin dans ce débat, mais la 5G est un élément essentiel pour le véhicule autonome, pour véhiculer, recevoir, transmettre l'information, pour que le véhicule puisse communiquer rapidement, soit avec les autres véhicules ou avec l'infrastructure. Donc oui, aujourd'hui, il manque encore des éléments pour assurer à 100% une conduite autonome. Donc, penser qu'un véhicule, je vais le prendre du fond de ma campagne pour aller au plein centre de Paris, ça c'est de l'utopie.
Ouais, c'est pas gagné.
Par contre, pouvoir avoir des conduites automatisées, même avec un niveau 4, mais ce sera plutôt sur des sites dédiés, type autoroute, bref, des endroits où on a clairement des possibilités de communiquer avec l'infrastructure, d'avoir des infrastructures très très claires, qui fait qu'on aura la sécurité des systèmes électroniques et de tout ce qui est automatisation du véhicule.
Merci Laurent Eke, merci beaucoup. Laurent. Bah déjà, si on arrive à avoir de l'autonomie sur autoroute, ça serait pas mal, quoi. Et si ça fonctionne vraiment.
Ouais, mais pareil, vous avez des cas de figure où si vous n'êtes pas attentif, vous allez vous retrouver dans une situation épouvantable.
On n'a pas évoqué, mais de temps en temps, il y a des accidents gravissimes avec des véhicules autonomes. Mais ça, c'est un autre débat. On pourra en parler, c'est vrai, Jean-Luc, pendant des heures. Il est 9h28, la météo, les infos. On poursuivra avec vos questions auto au 32-16. Notre question pas si bête, un constat est-il obligatoire en cas d'accident ? A tout de suite.
RMC jusqu'à 10h.
Votre auto.
François Sorel.
Jean-Luc Moreau.
Nous sommes de retour le week-end des experts d'automobile. Dans quelques instants, notre question pas si bête. Un constat est-il obligatoire en cas d'accident ? Que fait-on par exemple si on n'a pas de constat ? Est-ce qu'on peut le rédiger sur du papier libre ? Est-ce qu'on est obligé de remplir un constat après un accident ? On voit ça dans un instant. Mais auparavant, vos questions. Et c'est André qu'on accueille au 32-16. Bonjour André.
Bonjour.
Bienvenue. Bonjour André.
Bienvenue André.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, voilà, j'ai acheté un véhicule, une 208 diesel-like en l'année dernière. Et j'arrive au garantie, j'aimerais savoir si c'est opportun de continuer une extension des garanties.
Alors attendez, ça a coupé au moment où vous arrivez à la fin de la garantie, c'est ce que vous avez dit.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Donc vous avez une garantie de 2 ans, c'est ça, la garantie commerciale?
Non, garantie 1 an.
Garantie 1 an, d'accord.
Ouais, c'est un véhicule d'occasion.
Ah d'accord, elle est de quelle année votre voiture?
2017. Et déjà j'ai changé les amortisseurs il y a 2 mois, j'avais 82 000 km.
Faut ralentir sur les ralentisseurs, vous savez. Ça va faire plaisir à Thierry qui nous écoute. Mais c'est vrai, et je rigole pas, hein, c'est vrai que les ralentisseurs, ça va diminuer. Il faudrait faire une étude sur ça, mais ça va diminuer la vie des amortisseurs. On va dire, si vous êtes dans une région où il y a beaucoup de ralentisseurs, je pense que vous allez diviser par deux la durée de vie des amortisseurs. Hein. C'est extrêmement préjudiciable aux amortisseurs. Autant que les pavés, surtout si vous roulez chargé d'ailleurs.
Non, je ne roule pas chargé. Mais j'aimerais savoir si je dois continuer la garantie ou pas, quoi.
Mais vous pouvez, une fois que vous êtes arrivé au bout de votre garantie là, de véhicule d'occasion, il vous propose une extension, c'est ça?
Oui, voilà. J'aimerais savoir si c'est opportun, parce que vu que moi déjà, le véhicule a 80 000 km, si c'est intéressant.
Il vous propose quoi comme garantie? Parce que c'est pareil, vous dites...
C'est la même garantie, mais à 30 euros par mois, donc.
Oui, mais 30 euros par mois, il propose quoi comme garantie? Une garantie sur tous les organes. Alors évidemment, en laissant de côté tout ce qui est pièces d'usure.
C'est la suite que j'avais. Là.
D'accord, mais c'était quoi? C'est ça ma question.
Les amortisseurs.
Vous aviez les amortisseurs qui étaient compris dans la garantie. Donc des pièces d'usure étaient comprises dedans.
Ah bah heureusement, oui.
Il y a les pneus, il y a les freins, il y a tout ça.
Ah non, il n'y a pas les pneus.
Ah, il n'y a pas les pneus. Il n'y a pas les freins, il n'y a pas les pneus. Il y a l'embrayage.
Oui, il me semble, oui.
Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Parce que j'allais vous dire 87 000 km, va falloir penser peut-être à l'embrayage. Ça dépend comment la voiture a été conduite auparavant, mais on peut commencer à avoir des défaillances d'embrayage à ce kilométrage-là. Voilà. Ouais. Votre voiture, après peut avoir des défaillances au niveau du filtre à particules, au niveau des injecteurs, au niveau de la vanne EGR, toutes ces petites choses, même si vous êtes dans une région où vous faites de la route, vous faites quoi comme type de trajet?
Non, je fais à peu près une cinquantaine de kilomètres par jour.
Bon, ça va, vous roulez bien quand même. Voilà. Moi, je serais vous, ouais, je compléterais. Vous êtes à un kilométrage de la charnière. Hein. Quand on s'approche de 100 000 kilomètres, à partir du moment où on peut avoir une garantie, il vaut mieux la prendre. C'est de la sécurité.
Ok, ça marche. Merci bien.
Bon. Eh bien, voilà. Merci beaucoup.
Bonne continuation.
Bonne journée. Bonne continuation, André. Si tout comme André, vous voulez joindre Jean-Luc Moreau, le 3216 ou bien l'appli RMC Direct Studio. Dans quelques instants, on ira découvrir la saison 5 de Wheeler Dealers avec Aurélien Leteux qui sera avec nous au téléphone. La saison 5 de Wheeler Dealers qui commence très vite, très bientôt sur RMC Découverte. Mais auparavant, c'est notre
jeudi
question.
Jeudi 26.
Jeudi 26, bah oui.
C'est pas tout de suite.
Ah non, c'est dans 2 semaines. Deux semaines. On va en parler dans quelques instants. Mais auparavant, notre question pas si bête.
Si je vous dis, con vous avez l'air, c'est pas français.
RMC, votre auto.
C'est juste, mais c'est pas français.
La question pas si bête.
C'est une excellente question.
Un constat, Jean-Luc, est-il obligatoire en cas d'accident?
Tiens, on va voir si vous avez de la mémoire ou si Alzheimer vous a frappé de plein fouet. Parce que c'est une question qu'on avait dans le quiz de Maître Rémy. Il n'y a pas longtemps. Est-ce que c'est obligatoire un constat?
Eh bien, je ne pense pas.
Eh bien, vous avez raison. Effectivement, le constat d'accident n'est pas obligatoire. Mais ce qui est obligatoire, en revanche, c'est de laisser ses coordonnées à la partie concernée, c'est-à-dire à la personne ou les personnes avec qui vous avez eu l'accident. Bon, par contre, s'il y a des blessés, vous devez obligatoirement appeler les forces de l'ordre. Donc, il y aura un rapport de gendarmerie ou de police qui sera fait. Mais on va revenir donc à ce constat. Il vaut mieux, il n'est pas obligatoire, on peut laisser ses coordonnées, comme on l'a dit, mais il vaut mieux quand même faire un constat sur place. Alors, on va rappeler que quand on fait un constat... Alors déjà, tiens, petit truc, si vous avez un constat papier, commencez par le remplir avant. Vous avez toute la partie, vous mettez votre nom, votre numéro de contrat d'assurance. Ça évite, en général, quand on a eu un accident, on est un peu stressé. Hein, on est choqué, souvent,
oui, bien sûr,
même.
Évidemment.
Donc, plus on va alléger le travail à faire, mieux ça sera. Donc pensez à remplir ça. Deuxième chose, pensez aussi qu'il existe une application qui vous permet de faire un e-constat sur votre smartphone. Parce qu'on n'a pas toujours un constat papier sur soi. Moi, d'ailleurs, je sais même pas si dans mes voitures, j'ai des constats papier. Donc, alors, on peut télécharger l'application au moment où a eu lieu l'accident. Le mieux, c'est de le faire avant et d'avoir déjà l'application sur son smartphone. Alors, vous devez, si vous remplissez un constat, bien penser, alors remplir le recto sur les lieux de l'accident avec l'autre conducteur, le tout dans un seul constat. Il ne faut pas faire chacun un constat de son côté. Chaque partie conserve un exemplaire, parce qu'il y a, vous savez qu'il est en deux parties avec un carbone. Et vous avez le dos, la version, le verso, la partie déclaration qui est complétée plus tard, qui peut être complétée individuellement par chacun des conducteurs. Alors, vous pouvez vous aider du mode d'emploi qui est au dos, pour bien comprendre comment ça marche. Comme je vous disais tout à l'heure, en général, quand on a un accident, on est quand même un petit peu stressé. Donc, essayez déjà de lire au moins une fois ce truc-là dans votre vie pour avoir une petite idée de la façon dont ça va se passer. Bon, si vous avez un accident multiple, genre c'est un carambolage, vous devez faire un constat avec le véhicule devant dans lequel vous êtes rentré et un constat avec le véhicule derrière si le véhicule à l'arrière vous a percuté. Attention, ça c'est pas possible sur le e-constat. Ça n'est possible qu'avec un constat papier. Donc c'est pour ça que malgré en fait aujourd'hui la possibilité d'avoir un e-constat est toujours bien de laisser traîner quand même une feuille de constat quelque part dans la voiture. Alors faites bien attention que la partie adverse signe le constat. Et s'ils refusent de faire un constat, parce que ça peut arriver, les gens qui sont pas assurés vont vous dire je fais pas de constat, relevez le numéro d'immatriculation de son véhicule et éventuellement, s'il y a des témoins, prendre les coordonnées des témoins, parce que ça sera nécessaire par la suite. Bien faire attention aussi, quand on coche les petites cases là, attention, ça a une importance capitale. Bien lire ce qu'il y a écrit avant de cocher une case. Chaque case que vous cochez, c'est une part de responsabilité que vous endossez. Je ne vais pas dire que les assureurs lisent un petit peu en biais les constats, mais souvent ils se servent de ça pour répartir les responsabilités. Donc sachez que si vous avez coché une case, vous aurez une part de responsabilité. Donc bien réfléchir au moment de l'accident. Alors après, si l'autre conducteur prend la fuite après l'accident, notez bien le numéro d'immatriculation et allez tout de suite déposer plainte. Donc c'est un délit de fuite. Et là, si lui est rattrapé, malheureusement, il y en a de plus en plus. On se rend compte que aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui circulent sans assurance. Il faut pouvoir arriver à prouver qu'on a eu un accident avec un véhicule qu'on a identifié. S'il s'en va et que vous n'avez pas pris sa plaque d'immatriculation, eh ben, malheureusement, c'est pour vos pieds. Et vous avez aussi, 5 jours, et j'aurai fini, 5 jours pour transmettre le constat à votre assureur. Donc si vous partez en vacances, n'attendez pas le retour de vacances si vous avez eu un petit accrochage pour le transmettre à votre assureur.
Jean-Luc, 9h42, à suivre donc vos questions auto au 32-16 et on découvrira donc la saison 5 de Wheeler Dealers dont la diffusion commence le 12 novembre.
Ah, le 12, pourquoi je vous ai dit
pas, c'est pas grave.
Ah non, c'est parce que moi j'ai le truc de le communiquer sur l'émission du 25, mais ça commence le 12 effectivement.
Voilà, et on en parle dans un instant. 32-16, l'appli RMC Direct Studio, à tout de suite.
RMC jusqu'à 10h,
votre auto.
François Sorel,
Jean-Luc Moreau.
Dernière ligne droite de ce week-end des experts, l'automobile, avec Jean-Luc à mes côtés. Dans un instant, petit coup d'œil de la saison 5 de Wheeler Dealers qui commence sur RMC Découverte dans quelques jours, jeudi prochain. Mais auparavant, c'est Muriel qu'on accueille au 32-16. Bonjour Muriel.
Bonjour.
Bonjour Muriel.
Bienvenue.
Bonjour. Merci, contente de vous entendre.
Et bien pareillement. Et qu'est-ce qui vous arrive, Muriel ?
J'ai un gros dilemme parce que je veux changer ma voiture. J'ai une Golf 4 qui est de 2001. J'ai fait 106 000 km en 20 ans. Elle est en super état, mais je veux la changer. Je veux me faire un plaisir. Et j'hésite entre une Audi. Je voulais absolument une Audi A1 parce que je suis tombée amoureuse de la ligne de l'Audi A1. Mais ça fait 3 garagistes qui me disent que vu les kilomètres que je fais, elles ont toutes des turbos. Et je vais abîmer le turbo.
Ah, si vous ne roulez pas ?
Voilà, c'est ça.
Non mais attendez, c'était quoi votre Golf 4 ? C'était un diesel ?
Non, ce n'était pas un diesel, c'était une essence, une 7 chevaux, voilà.
Bah, je vois pas en quoi ne pas
parce
rouler.
Parce que tout le monde me dit je vais abîmer un turbo si je ne fais pas de kilomètres avec, si je fais que des petits trajets, on me dit que je vais abîmer
en
turbo.
Mais vous resteriez en essence en fait, vous passeriez pas en diesel.
Je resterais en essence, oui, bien sûr. Oui, oui.
Ça abîme pas le turbo. Bon, ça abîme généralement tous les moteurs thermiques. Le fait de faire des petits trajets, ça les abîme. Parce que vous laissez pas monter en température le moteur. Pourquoi? Parce que lui, il a besoin de monter en température d'abord pour mieux lubrifier. Ça, c'est le premier truc. Et a besoin d'évacuer l'humidité. L'huile, elle absorbe l'humidité. Vous avez toujours dans l'air, il y a de l'humidité. On n'est jamais à 0% d'humidité. Donc, l'humidité de l'air petit à petit se condense sur les parois à l'intérieur du moteur, va couler dans l'huile, l'huile va charger en humidité, on a besoin de faire chauffer le moteur pour évacuer cette huile. Voilà. Oui. Donc si vous roulez vraiment pas beaucoup et que l'huile ne chauffe jamais, elle va se charger en humidité, elle va s'oxyder, elle lubrifiera moins bien et c'est le fait qu'elle ait des propriétés lubrifiantes qui soit affaibli, qui risque de provoquer la panne du turbo. Pourquoi ? Parce que le turbo, vous savez, c'est une turbine qui est dans les gaz d'échappement, qui entraîne une autre turbine qui est à l'admission. Et cette turbine à l'admission, bah, ça souffle, ça comprime l'air à l'entrée du moteur, ça permet d'augmenter la puissance. Et entre les deux turbines, il y a ce qu'on appelle un palier. Et ce palier, il est soumis à des températures très importantes. Un turbo, ça tourne... Alors, en fonction des types de turbo, il y a des vitesses différentes, mais entre 100 000 ou 200 et jusqu'à 250 000 tours par minute. Donc vous imaginez, il faut lubrifier le truc, ça chauffe. Si l'huile est pas de bonne qualité parce que votre huile justement s'est dégradée parce que vous roulez pas souvent, vous risquez d'abîmer le turbo. Mais ça va pas arriver tout de suite. Et puis il y a une parade, c'est d'utiliser des lubrifiants qui vont avoir des qui vont vous permettre, même si il y a une dégradation de l'huile, d'avoir des additifs solides qui vont continuer à protéger le turbo. Il y a des huiles qui existent aujourd'hui qui permettent de faire ça. Mais le mieux, si vous ne roulez pas souvent, c'est de faire une vidange par an. Voilà. Même si vous avez peu roulé, vous faites une vidange par an et votre voiture, bah, elle va durer. Il n'y a pas de souci.
Elle va durer. C'est pas. Ouais, parce que tout le monde me dit oulala, tu vas ton non, turbo, il va
non,
être foutu.
Non,
si
mais
tu
non,
fais que
mais
des
non,
petits trajets,
non,
tu vas foutre en l'air ton turbo.
Non, non.
Le problème, c'est qu'il y a très peu de voitures sans turbo à l'heure actuelle.
Il y en a pratiquement plus. On a pratiquement plus, sauf à
choisir. J'avais vu la Polo 6 à 80 chevaux qui n'avait pas de turbo, je me rabattais
là-dessus.
Ça va
pas être la même histoire, comme on disait.
Ou alors, vous prenez une américaine avec un gros V8, il n'y a pas de turbo, là. Vous serez tranquille. Non, mais je vous dis, le cas de figure où on vous dit le turbo va casser, c'est si l'huile s'est dégradée.
Bon,
pour dégrader l'huile,
il faut franchement y aller.
Quoi. Faites une vidange par an et votre turbo il sera préservé, il n'y a pas de souci. Il faut faire plus attention si vous restez, par exemple, 6 mois sans rouler, à ce que je disais tout à l'heure, faire attention au carburant qui lui va se dégrader. Doute un peu plus vite.
Merci beaucoup Muriel. Allez Jean-Luc, direction RMC Découverte avec la saison 5 de Wheeler Dealers qui débute jeudi prochain, jeudi 12 novembre, et on en parle avec Aurélien Leteux qui est l'un des présentateurs de Wheeler Dealers qui est avec nous. Bonjour Aurélien.
Bonjour Aurélien.
Bon. Ça va très bien, oui, bonjour.
Alors voilà, la cinquième saison, c'est parti.
Ça y est, c'est parti, c'est jeudi, oui.
Vous avez commencé quand à tourner ça, tiens ? Est-ce que vous avez été un peu perturbé par les confinements divers et variés ?
Oui, hein, comme tout le monde, on a été impacté. Nous, on commence à tourner en mars, donc on a tourné un petit peu au début, et puis après, on a été confinés, et on a fini les tournages, là, il y a 3 semaines.
D'accord, bon, ça reste une saison complète, donc combien d'épisodes prévus ?
Ça reste une saison complète, avec 12 épisodes.
12 épisodes, ça démarre là, et ça finit quand, alors ?
Bah, ça va durer 6 semaines avec 2 épisodes chaque jeudi soir.
D'accord. On commence par quoi, tiens, cette semaine comme véhicule ?
Ah, cette semaine, on commence par 2 belles voitures. On commence par une Mercedes Pagode.
D'accord.
Et on sera suivi par une française mythique, une R5 Turbo 1.
Ah, super.
Alors, est-ce que Aurélien, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Wheeler Dealers, honte à eux, d'abord, première chose.
On rappelle le principe de l'émission.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe de Wheeler Dealers ?
Bah, le principe, il est déjà, Jerry trouve une voiture en bon état, l'achète, et c'est de la retaper, de réussir à faire un petit bénéfice en la revendant. Ça, c'est le principe général. Après, le principe un peu caché, c'est de faire comme vous, c'est tout simplement d'expliquer aux gens des méthodes de mécanique, comment préserver sa voiture, comment travailler sur sa voiture. Ça, c'est notre réalité à nous.
D'accord. Est-ce que sur les modèles là, que vous avez restaurés, alors bon, après on va parler d'un autre qui m'intéresse, parce que là je veux savoir comment vous l'avez conduit celle-là, mais c'est la semaine d'après. Est-ce que sur, bon on va parler de la première émission de jeudi, là, sur oui. la Mercedes et la R5 Turbo 1, une Turbo 1 c'est rare d'ailleurs, hein, comme vous avez nous expliqué comment vous l'avez trouvé.
C'est très rare.
Ouais. Est-ce que vous avez eu des difficultés dans les restaurations, parce que c'est des véhicules qui sont quand même un peu complexes. La Turbo 1, à faire fonctionner correctement, c'est pas donné à tout le monde.
Non, c'est vrai que c'est des voitures assez complexes. Après, sur les R5, bon, moi, je suis un vrai passionné de Renault. Hein, ça, beaucoup de gens le savent. Donc, on était sur un modèle que je connais très bien, donc on n'a pas été embêté. Mais parfois, pour les pièces, donc tout ça, c'est compliqué. Et d'ailleurs, dans l'épisode, vous aurez l'occasion de voir qu'il y a une pièce qui est introuvable et qu'on va faire refabriquer entièrement.
D'accord, c'est une pièce de quoi moteur,
une pièce
carrosserie.
De carrosserie.
Une pièce
une
de carrosserie.
Petite grille, une petite grille qui va dans les ailes arrière, puisqu'elles ont les ailes arrière gonflées. Et voilà, qui est maintenant introuvable et on va réussir à s'en reprocurer.
D'accord. Vous l'avez payé combien, la Turbo 1, si c'est pas indiscret, ou s'il faut attendre jeudi Jerry l'a acheté combien
Je sais plus le prix exact d'achat, mais c'est une voiture, effectivement, qui tourne aux alentours de 70 000 euros à l'achat. Ouais.
Ah, quand même.
Oui, mais c'est en très bon état, ça monte jusqu'à 90, c'est même plus de 100 000 euros pour certaines versions.
Pas tout à fait 100 000, mais pas loin. Ouais. Donc, ouais. Et on fera une autre voiture cette année qui dépasse les 100 000 euros.
Ah oui, quand même.
Et vous ne voulez pas nous dire ce que c'est?
Oh, je peux vous dire, on va faire une BM 2002 Turbo.
Ah, super.
Donc, là, une des premières voitures de série avec un turbo compresseur.
Voilà. D'accord. Alors la semaine d'après, parce que là je vous disais, ce qui m'intéresse c'est de savoir comment vous avez conduit cette voiture. Vous faites un ancêtre,
oui,
que tout le monde connaît, c'est la Ford T.
C'est vrai.
La Ford T, elle a cette particularité que quand on se met au volant, si on vous a pas expliqué avant comment ça se conduit,
on peut pas démarrer.
on va pas très très loin. Comment vous avez fait, Jerry s'en est sorti ou pas?
Jerry s'en est sorti et même bien sorti, bah surpris hein, lui qui des fois n'est pas toujours super à l'aise, je me suis dit, mais non, il s'en est très bien sorti, cette étape. Puis moi aussi, j'ai eu l'occasion de la conduire et de me rendre compte de ce que c'était de conduire comme ça à l'époque. Pour accélérer, faut que la pédale soit relâchée, le frein est à l'envers, l'accélérateur est à la main, l'embrayage, faut le tenir tout le temps appuyé, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de lâcher la pédale d'embrayage, il faut qu'elle soit appuyée pour que la voiture avance.
Ah ouais, c'est tout un cérémonial. Moi, je me souviens.
C'est tout un cérémonial.
J'avais fait ça il y a une vingtaine d'années. Il faut réfléchir à chaque instant à ce qu'on va faire pour arriver à conduire cette voiture. Évidemment, avec l'habitude, ça vient plus facilement. On arrive à restaurer les voitures comme ça, à trouver des pièces sur la Ford T?
Bah, honnêtement, moi, c'était mon premier ancêtre, hein, mais on voulait à tout prix en faire un. On a donc contacté pas mal de clubs en France, parce qu'il y a beaucoup de clubs. On a été bien épaulés et on arrive à trouver beaucoup de choses, notamment sur la Ford T. C'est pour ça aussi qu'on l'a choisi, qui est un modèle ultra populaire, qui a été énormément vendu. Donc ça reste une voiture en tant qu'ancêtre assez facile.
Aurélien, on se retrouve jeudi sur RMC Découverte. Donc,
avec grand plaisir.
Merci pour le coup d'envoi de cette saison 5 de Wheeler Dealers. Jean-Luc, on sera là dimanche prochain.
Yes.
Et dans un instant, c'est Jean-Christophe Drouet qui prend le relais avec les paris, bien sûr.
Jean-Luc, François, bonjour. Les paris RMC avec beaucoup de derby en Ligue 1.
Jean-Luc, François, ça fait presque un nom unique comme ça.
C'est vrai.
Bonjour, je m'appelle Jean-Luc François.
Ce sera un bon chanteur.
Ouais, un bon chanteur des années 60.
François,
François.
Ouais. Ou François Jean-Luc aussi, ça sonne bien.
Ouais.
Enfin bon, excuse-moi, je te coupe.
Vous avez quelque chose contre les prénoms? Ou pas
du tout, aucun. Non. Moi j'adore Jean-Christophe.
Non, non.
Ça tombe bien, tu t'appelles comme ça.
Oui, c'est génial, moi je déteste. Les paris RMC dans quelques instants avec notamment Lyon-Saint-Etienne, le derby, ce sera à 21h, c'est en Ligue 1. On va tenter comme d'habitude de vous faire gagner beaucoup d'argent, pas un petit peu, beaucoup.
Allez, bon dimanche avec RMC et on sera là le week-end prochain. Salut à tous.